Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, c'est le lundi 25 octobre 2021. Les mois filent à toute allure. J'espère que vous avez bien profité de la fin de semaine. Il a fait beau finalement samedi, dimanche. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène. Bonjour à tous et toutes.
Allô. Hey, vous avez une voix spéciale ce matin, Barry White.
Oui, j'ai remarqué ça, que ce matin, ma voix était très, très grave. Je ne sais pas, je me suis réveillé comme ça il y a des jours.
Une
comme
voix
ça,
d'animateur d'émission nocturne,
oui,
pourquoi
tout
pas.
Tout à fait.
Alors, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez gratté votre terrain en fin de semaine? Parce qu'il y en a des feuilles sur les pelouses.
Et je me suis mis à essayer pour une première fois l'herbicyclage.
C'est-à-dire?
Passer la tondeuse sur les feuilles mortes,
ah, oui,
plutôt que de remplir le bac une fois, deux fois, trois fois. Pour les années passées, c'est plusieurs fois qu'on doit remplir le bac avant de se débarrasser de toutes ces belles feuilles. Donc là, j'ai fait un gros tas avec les enfants. Puis la tondeuse s'en est occupée. Apparemment que c'est bon pour l'environnement.
Oui,
donc,
c'est un bon truc. Et puis, on entend de plus en plus souvent que c'est pas nécessaire de les ramasser, ces feuilles-là, parce que ça fait du compost, mm-hmm, et c'est bon, et moi, ça me réjouit d'entendre ça. Alors, aujourd'hui, au menu, on va parler avec Martin Houle, qui est le porte-parole de Parents pour toujours. Il a, en fait, une bonne nouvelle à partager avec nous, une bonne nouvelle pour les parents d'enfants majeurs lourdement handicapés. Bonne nouvelle en signe de forme de dollar. Dave Janis, auteur et metteur en scène, qui est aussi comédien, qui a créé une compagnie de théâtre autochtone qui fonctionne très, très bien. J'ai bien hâte de le rencontrer. Il va nous parler de la pièce qu'il a écrite pour faire en quelque sorte le deuil de son père, une pièce intitulée « La cendre de ses os ». Et c'est présenté à la licorne La Petite Salle, qu'on appelle donc La Petite Licorne. Il sera avec nous plus tard. Et Alexandre Beaupré-Lavallée sera là en studio pour sa chronique « Éducation ». Aujourd'hui, ben, c'est lundi, donc nos chroniqueurs du lundi sont au rendez-vous. Louis de Bernis, bonjour.
Bonjour Hélène.
Louis, ça va?
Mais oui, ça va. Il fait encore assez chaud pour faire un peu de vélo les fins de semaine, mais
oui,
c'est bientôt terminé.
Oui.
Je m'en profite.
J'ai vu même quelqu'un en short hier ou ce matin,
non,
je me souviens plus trop, là, mais je me disais, il y en a qui sont vraiment pas frileux.
Non, moi j'ai tout couvert, on ne voyait pas mes mollets.
Bon, alors on est rassurés. Louis, votre menu du jour?
Eh bien, insolites et insolites animaux, ça fait souvent un bon ménage. On,
oui,
parlera d'une course-poursuite qui n'est pas terminée, qui dure depuis des semaines. Ce sont des zèbres qui sont en liberté aux États-Unis. Et
ah,
qui,
oui,
font la... Et puis, un wapiti qui a été délivré. Il lui courait après depuis 2 ans, les éleveurs, les soigneurs, et ils l'ont libéré enfin d'un fardeau dont je vous parlerai.
Parfait. Zèbre et wapiti avec Louis de Bernis. Merci. À tantôt, Louis.
À tantôt.
Et devant moi, Serge Hamelin, qui a l'air tout calme et de bonne humeur. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, Hélène. Bonjour.
Alors, Serge,
oui,
votre menu, vous avez parlé des maux de dos la semaine dernière et vous poursuivez dans cette lignée, si
Disons
je puis dire.
Disons que nous avons effleuré les maux de dos et là, nous allons y aller un peu plus en profondeur.
OK.
D'accord?
Un massage qui vaut le détour, là, qui enlève les points de tension.
Etc., etc. Oui.
Okay. Parfait. Alors, c'est votre sujet d'aujourd'hui.
Les maux de dos.
Merci beaucoup. La chanson, ben, c'est celle de Marie-Pierre Arthur. Elle s'intitule « Rien à faire » et tout de suite, les une tout de suite après.
Yeah.
Lundi 25 octobre, les unes des journaux. Le Journal de Montréal, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a présenté hier les grandes lignes du programme qui remplacera le cours éthique et culture religieuse à la rentrée 2023. La religion remplacée dans nos écoles, valeurs et culture québécoises à l'honneur. Des chroniques de Richard Martineau, Adieu et bon débarras pour protéger notre identité Makakoto. Et une fierté inclusive, Sophie Durocher. Le ministre de l'Éducation recentre le cours d'éthique et culture religieuse sur les fondements de la société québécoise, ce qui suscite des réactions mitigées. L'ancien programme reposait sur un dogme que c'est l'appartenance à une communauté religieuse qui définit essentiellement notre identité. On ne peut plus tolérer ce genre de biais au Québec dans nos écoles, a fait savoir le ministre Jean-François Roberge hier, soulignant que cela allait à l'encontre des valeurs québécoises. Le nouveau programme présenté hier à Montréal se déclinera en trois axes: culture, citoyenneté québécoise, ainsi que dialogue et pensée critique. On doit apprendre à l'école à aborder des questions sensibles et demeurer respectueux lorsqu'on est en désaccord, a souligné le ministre. Les écoles pourront implanter graduellement ces notions dès septembre 2022. Le cours sera obligatoire l'année suivante et on en reparlera un peu plus tard à la chronique éducation avec Alexandre Beaupré, La Vallée. Aussi, autre titre à la une du Journal de Montréal, des cerveaux francophones forcés de s'exiler, délai pour avoir leur résidence permanente. Il y a quelques exemples à l'intérieur. Une doctorante française exténuée par les démarches d'immigration depuis le Québec a mis le cap sur la Nouvelle-Écosse pour se faciliter la vie. « Je suis partie par épuisement », résume Sandrine Mounier, 36 ans, qui habite désormais Halifax après 6 ans passés à étudier à l'Université du Québec à Montréal. « Ça a été vraiment difficile de prendre la décision. Je me sentais chez moi à Montréal », admet la professionnelle en études urbaines. Autre exemple, l'incertitude entourant l'immigration au Québec a eu raison d'un analyste de données marocain qui est parti à Toronto sur un coup de tête afin d'accélérer le traitement de sa demande. « J'étais tellement stressée. Je passais mon temps à rafraîchir mes courriels », se rappelle Zakaria Erami, 21 ans, diplômée des HEC. Et autre titre à la une du Journal de Montréal de ce lundi, manque d'organisation, pénurie de personnel, mauvaise gestion des congés, les pires urgences craquent de partout. Et l'urgence qui arrive, c'est un palmarès un peu... On veut pas faire partie de ce palmarès, mais l'hôpital CUSUM de Montréal arrive bon premier dans cette liste, donc à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le Devoir maintenant, la citoyenneté d'abord, le cours appelé à remplacer éthique et culture religieuse sera déployé graduellement dans les écoles primaires et secondaires dès la rentrée 2022. Santé, la Côte-Nord se sent lésée, la région a perdu 44 % des médecins de famille qui lui étaient destinés. Aussi, les bébés pas tous égaux face à la maladie, les femmes enceintes qui contractent la COVID-19 transfèrent moins d'anticorps au fœtus mâle que femelles. C'est un texte de Pauline Gravel. Et dans le Devoir électronique, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui. Dans le Quoi surveiller, on parle d'élections municipales. Radio-Canada va diffuser un débat à 18 h dans le cadre des élections municipales. Les candidats à la mairie Valérie Plante de Projet Montréal et Denis Coderre d'Ensemble Montréal s'affronteront sur le plateau du téléjournal animé par Patrick Roy. Patrice Roy, dis-je bien, et tenteront de convaincre les électeurs de voter pour leur option. Un autre débat est prévu jeudi prochain entre Valérie Plante, Denis Coderre et Balarama Holness, à l'invitation d'un consortium de médias anglophones. Les audiences reprendront dans le cadre de l'enquête publique du coroner portant sur les nombreux décès survenus au CHSLD Heron à Dorval au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19. Elles auront lieu les 25, 26 et 27 octobre à compter de 8h30, donc c'est déjà commencé. Elles permettront d'entendre de nouveaux témoins ou de réentendre certains témoins pour mieux éclairer la coroner. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, fera une annonce concernant de nouvelles places en service de garde éducatif à l'enfance pour les communautés autochtones. Québec avait lancé un appel il y a quelques semaines pour créer 17 000 places supplémentaires en garderie. À ce nombre devraient s'ajouter 1 000 places réservées aux communautés autochtones. Le ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, tiendra un point de presse en compagnie du président désigné de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26, Alok Sharma. Ils feront le point sur le lancement d'un plan de 100 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques. Le secrétaire d'État du ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sûreté nucléaire, Jochen Flachbach, sera également présent. Alok Sharma avait demandé aux deux ministres d'élaborer un plan pour atteindre l'objectif de financement pour la lutte contre les changements climatiques de 100 milliards de dollars américains d'ici 2025. Il y a plus de 10 ans, les pays les plus riches s'étaient engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année d'ici 2020 afin d'aider les nations en voie de développement à s'adapter et à lutter contre les effets des changements climatiques. Et je termine avec la une de la presse plus. Quelque chose clochait. C'est une chronique qui donne froid dans le dos, qui est très émouvante, mais en même temps, il y a quelque chose qui contient de l'espoir, une chronique de Patrick Lagacé, une histoire épouvantable de Sophie qui a été agressée sexuellement par son grand-père Gilles. Sophie a suivi une thérapie de 6 mois à Marie-Vincent, c'est tout près d'ici, sur Papineau. Son grand-père va subir son procès très prochainement. Il est accusé d'agression sexuelle. Et puis, il y aura un deuxième procès parce qu'une autre femme l'a dénoncé à la police. C'est donc une histoire à lire, signée Patrick Lagacé, ce matin. Immobilier, transaction monstre à l'horizon. La société montréalaise Canderel et des partenaires souhaitent acheter et privatiser le fonds de placement immobilier Cominar, qui compte parmi ses actifs plusieurs des centres commerciaux les plus connus au Québec, comme le centre Rocklune ou le Maille Champlain. Coût de la transaction, près de 6 milliards de dollars. Et la semaine dernière, on semblait dire qu'au centre-ville, c'était assez mort côté commerce et affluence. Et puis aujourd'hui, on peut lire à la une de la presse que le centre-ville reprend vie. Non, la tourmente n'est pas terminée, mais des commerçants voient le bout du tunnel. Et Paul Journel signe un éditorial autour de ce nouveau cours, un cours qui fera du bien.
Mando n'est pas une chaise. Pourquoi tu t'assois dessus? De tout en poids et de tout en malaise, qui est comme un perdu? Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous, qui se referment comme des pièges derrière. Comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise, toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal, c'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges, des broches dans tous les coins. Drôle de manière d'avoir envie de rien, de nous le faire savoir. Mon dos n'est pas une chaise, comment faire pour te convaincre que l'univers commence où tu t'arrêtes, qu'il s'agrandit. Sur des blocs de ciment, nous les remettrons en état.
La sympathique formation avec podcast qui nous chantait « Mon dos n'est pas une chaise
». Mon dos n'est pas une chaise. Serge, c'est pour vous, ça? Vous parlez du dos, le dos qui peut nous faire souffrir.
Oui, 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 qui peut nous inquiéter.
Oui.
Hein, n'est-ce pas? Parce que, mais ce qui est intéressant dans l'article dont j'ai pris connaissance dans la revue Protégez-vous, qui disent « Ne courbez pas les chines », parce que devant un mal de dos, on a tendance à penser que peut-être que c'est fini, qu'on ne pourra plus jamais marcher comme il faut, etc. Alors que non, et aussi on dit dans l'article que 4 Canadiens sur 5 vont souffrir d'un mal de dos.
Ouais, c'est beaucoup.
Mais qu'il y en a juste 16% qui finalement c'est grave et qui devront subir un genre de chirurgie.
Ouais.
Mais les autres, là, 85%...
C'est traitable.
C'est traitable et souvent... comment? Eh bien, quand la douleur apparaît, je vais être obligé de vous lire ce qui est écrit dans l'article pour être plus précis.
Oh non,
mais oui. Mais je vous le lirai pas platement. Je vais vous le dire.
On n'est pas des lecteurs plats ici.
Non. Alors, perte de mobilité ou de flexibilité, incapacité à se tenir droit, difficulté à s'adonner aux tâches de la vie quotidienne et perturbation du sommeil caractérisent la vie des gens qui souffrent de maux de dos. On parle de cervicalgie, pour une douleur au cou, de dorsalgie, de la base du cou jusqu'à la taille, et de lombalgie pour le bas du dos, et de sciatalgie quand le mal part du bas du dos et descend dans la jambe. Ça, c'est la docteure Aline Boulanger qui parle de ça. Alors, la douleur peut être aiguë, c'est-à-dire qu'elle persiste moins de 4 semaines, subaiguë entre 4 et 12 semaines, et chronique 12 semaines et plus. En phase aiguë, la première chose à faire est de ne pas paniquer. Ah, indique Christian Larivière. L'intensité de la douleur n'est pas un signe fiable de la gravité de la lésion et l'expert précise que dans la majorité des cas, le mal de dos est bénin. Alors il y a de l'espoir. Alors qu'autrefois, du repos était recommandé dans pareille situation, aujourd'hui, le mot d'ordre est de rester actif. Car la sédentarité contribue à atrophier les muscles, ce qui peut allonger la période de guérison. Avant de consulter un médecin ou un spécialiste, commencez par changer vos habitudes. Quand vous regardez la télévision, ne soyez pas évaché. Ça risque de vous prendre dans le bas du dos, ça. Évitez les exercices trop intenses, par exemple, mais reprenez vos activités et le travail dès que possible, comme le recommandent les spécialistes. Et pour atténuer l'inflammation au début, vous pouvez appliquer de la glace et prendre un antidouleur comme de l'ibuprofène. Et on va voir ça tantôt à la page 29. La docteure Aline Boulanger estime que dans 95% des cas, la douleur disparaît sans autre traitement en moins de quelques semaines. Alors n'oubliez pas, n'ignorez pas toutefois que certains signaux d'alerte, si la douleur ne s'estompe pas ou augmente après 2 ou 3 jours, il faut consulter, dit Christian Larivière, bien sûr, le docteur Boulanger, recommande de voir son médecin lorsque le mal de dos est plus sévère la nuit ou qu'il est accompagné d'engourdissement ou de fourmillement dans les jambes, d'une perte de poids inexpliquée, de fièvre ou de douleurs abdominales ou thoraciques. Une visite chez l'omnipatricien permettra d'écarter un problème plus grave, comme une fracture, une tumeur ou une infection. Alors, ce qu'on va suggérer pour les maux de dos, c'est la thérapie manuelle. Qu'est-ce que c'est que la thérapie manuelle? Physiothérapeute, chiropraticien, ostéopathe, massothérapie et acupuncteur. Alors, on peut faire un mélange de tout ça, ce qui n'est pas mauvais.
Ouais.
C'est sûr que ça coûte de l'argent. Mais que voulez-vous? Il y en a, heureusement, qui ont des assurances. Et puis, il y a un monsieur qui a mis 1 000 $. Ses assurances en payaient le tiers. Alors, donc, lui peut se permettre ça.
Mais en même temps, c'est pas un luxe là, quand ça nous empêche d'être heureux, là, qu'on a tellement mal que ça...
Ben oui.
Ça nous bloque dans toutes nos activités.
Et on peut se trouver un massothérapeute, par exemple, dans les écoles de massothérapie, je sais par expérience, il y en a une ici au 8e étage, qui ne charge pas cher.
C'est promotion en passant.
Ils sont bons, oui, mais ça vaut la peine.
Oui.
Hein, c'est
on l'a pas essayé encore.
Ah ben, je vous le suggère fortement, mais il n'y a presque plus de place, hein, parce que les gens, c'est connu ça maintenant, alors cœur, les jambes vont se faire masser. Ouais. Et souvent, seulement le toucher enlève des tensions dans le dos.
C'est vrai, ça déstresse.
Ah, ça déstresse. Bon, c'est un manque affectif. Ça fait tellement,
y a peut-être ça.
Tellement
ça, c'est un autre
du bien. Moi, on m'a dit que les problèmes d'insécurité financière touchaient le bas du dos.
Ah.
Et les problèmes affectifs, la table, vous savez, la table dans le dos, niveau du haut du dos. Quelqu'un va vous mettre la main dans le dos, là, ah, ça fait donc du bien. On se sent comme protégé, stimulé et encouragé. On le dit, la table dans le dos.
Ouais. Une petite tape dans le dos. Là.
Oui, et puis une caresse encore plus longue, ça, on n'a plus mal nulle part à ce moment-là. Maintenant, alors donc, bon, et on peut commencer par guérir avec simplement une pilule. Le problème, c'est qu'il faut prendre la bonne pilule. Alors, quelle pilule peut-on prendre?
Une pilule quand on a
mal
dans le dos. On réussit pas à traiter notre mal de dos.
Ben, c'est-à-dire quand on a mal dans le dos. OK. Ah. Quand on commence par penser à une pilule. Mais il y a les exercices avant. OK. Il y a les exercices et puis le massage, oui. Ça fait du bien. Puis si vous voulez soulager un peu plus, ben, on y va avec une pilule. Laquelle pilule est bonne pour le mal de dos? Il y a quelques années à peine, on aurait indiqué l'acétaminophène. C'est quoi un acétaminophène? C'est un genre de Tylenol.
Un genre?
Une aspirine.
Oui. Ah, okay.
Aspirine, Tylenol. Or, les plus récentes études compilées par la revue médicale The Lancet en 2018 concluent que cet analgésique n'est pas efficace pour traiter ce type de douleur.
Ah non!
Alors, qu'est-ce qui est efficace? Eh bien, ce sont les AINS. Et qu'est-ce que c'est qu'un AINS? C'est l'abréviation de anti-inflammatoire non stéroïdien.
D'accord.
Et qu'est-ce que c'est qu'un anti-inflammatoire non stéroïdien?
Est-ce que c'est l'équivalent du Advil?
Eh bien, voilà.
Oh! Je n'avais pas lu votre texte.
Mais bravo.
Mais habituellement, Advil. C'est ça. C'est soit qu'on prend des Tylenol ou des Advil, oui. Selon le mal qu'on
Alors,
a.
Alors, l'anti-inflammatoire, par excellence, c'est l'ibuprofène.
Ouais.
Ibuprofène qui est contenu dans les Advil, Motrin, qui sont désormais recommandés en complément d'autres approches, et ce pour de courtes périodes, résume Martin Descaro, professeur au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bon, alors pourquoi? Parce que il y a des effets secondaires. Et quels sont ces effets secondaires avec ces pilules? Si on en prend trop, ben il y a les troubles digestifs, rénaux et cardiaques. Alors, il devient d'autant plus important d'en parler avec le pharmacien parce qu'on pourrait passer à côté d'une contre-indication, prévient Ian Gosselin-Gaudreau. Puis aussi, c'est qu'il y a des mises en garde sur les... ces comprimés, là, hein, qui comprennent l'ibuprofène et le naproxène, lesquels sont vendus derrière le comptoir de la pharmacie, sont à réserver pour la douleur aiguë lorsqu'il y a inflammation. Si le mal ne s'estompe pas ou qu'il s'aggrave, après 4 ou 5 jours, il faut consulter un médecin. Alors, pour éviter les effets désirables, comme l'irritation, les effets indésirables, alors comme l'irritation de l'estomac, on pourrait se tourner vers ce qui est devenu très populaire, le fameux gel Voltaren.
Ah oui, il y a beaucoup de publicité sur ce gel.
Un anti-inflammatoire topique qui agit rapidement en pénétrant sous la peau. Alors évitez toutefois de prendre de l'ibuprofène ou du naproxène en même temps que ce produit, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dépasser la dose et à ce moment-là provoquer des effets secondaires plus sérieux. Alors, donc, c'est pour ça que le Voltaren est derrière le comptoir en pharmacie.
Et c'est bien d'en parler avec son médecin, puis aussi discuter avec le pharmacien ou la pharmacienne.
Oui, bien sûr. Et puis là, ensuite de ça, il y a toutes les autres, les crèmes, les lotions, les gels, les vaporisateurs et des timbres. Par exemple, si vous mettez des produits, vous avez la peau sensible, alors on suggère les timbres. Pas les timbres poste. Et puis, maintenant, il y a les suppléments naturels. Plusieurs suppléments sont vendus comme solution contre les maux de dos. C'est le cas du curcuma et de l'huile de poisson. Alors, on n'a rien contre ça, mais il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques à cet
effet-là. Mais si ça fait du bien.
si ça fait du... Ah oui, il y a certaines personnes, ouais. Ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, il y a l'autre, le fameux, là, je l'ai vu en publicité, ça n'arrête pas. Certaines données suggèrent que le cannabidiol, c'est-à-dire le CBD,
ouais.
Une molécule qui provient du cannabis, mais sans les propriétés euphorisantes, soulage la douleur. Cependant, dans la tête de bien des gens, parce que c'est naturel, ce produit n'a pas d'effet négatif et est sans danger. Ce n'est pas la réalité. Ah, voilà.
Vous avez tellement bien lu.
Ah ben merci.
C'est gentil. Suis ébobée.
Merci
Serge. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ça paraît que vous avez fait un cours en théâtre. Oh. Vous savez dire les choses. Merci. On parle avec Louis de Bernice, de Zèbre et de Wapiti. Ben, c'est lui qui va nous en parler.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Nouvel extrait de Joseph Edgar, la pièce Sirène, Sirène.
Merci Jean-Sébastien. On retrouve Louis de Bernice. Il s'en passe des choses, Louis, aux États-Unis.
Oui, effectivement. Deux nouvelles qui nous viennent de l'autre côté de la frontière cette semaine. Deux nouvelles à propos d'animaux et de nouvelles insolites, bien sûr. On commence par la première. Ce sont deux animaux qui sont en ce moment un peu, et depuis plusieurs semaines, la star des réseaux sociaux. Ils apparaissent ici et là dans des photos, des vidéos de leurs apparitions inopinées. Et c'est pas très loin, c'est sur la côte est également, dans l'état du Maryland, pas très loin de Washington donc. Ces deux fugitifs, eh bien, qui sont en cavale depuis plus de 55 jours maintenant. C'est une vraie cavale, pas simplement.
Et des vrais fugitifs en costume de prisonnier.
Exactement, oui, tout à fait. Le costume est là également. Ce sont deux zèbres qui cavalent dans les champs, sur les routes, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la capitale américaine, dans le comté de Prince George. Et les services animaliers du comté se démènent pour les retrouver, mais jusqu'à présent, tout a été échec. Ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Comme le déclare le responsable des opérations, impossible de les prendre en chasse. Ils courent trop vite, ils se sauvent sans jamais se laisser approcher. Il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour essayer de les capturer, mais rien à faire, que ce soit des appâts avec de la nourriture, ils les évitent soigneusement. Il y a même eu une tentative de les appâter avec un groupe d'autres zèbres pour qu'ils se sentent en confiance, oui, en sécurité. Eh bien non, ils ont flairé là le piège encore.
Ils courent vite et ils sont intelligents en plus.
Exactement, très très méfiants. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, ils se sont échappés en fait fin août, à la fin de l'été, de leur ferme. C'est une grande ferme où ils vivaient. Ils étaient trois fugitifs à l'origine. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour le premier, pour le troisième larron, parce qu'il il a été retrouvé, il était pris dans un piège, les pattes, et malheureusement, il est mort, cet animal-là. Mais les deux autres, eux, sont bien en vie et galopent vigoureusement. Le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu les soins qu'ils avaient jusque-là très régulièrement, de nourriture régulièrement, d'eau, de soins vétérinaires adéquats. Et donc, les autorités s'inquiètent pour leur santé, bien évidemment. Alors, du côté de la justice, ça s'affaire aussi un peu, ça commence à faire bouger. Leur propriétaire a, par exemple, là, cette semaine, et c'est pour ça que ça sort un peu dans la presse, le propriétaire a été inculpé par un procureur pour acte de cruauté sur des animaux. Parce qu'il ne prend pas soin d'eux, donc ils sont potentiellement en train de souffrir de leur... ce qui n'est pas leur habitat naturel. Donc voilà. Mais aux dernières nouvelles, ils vont bien puisqu'ils sont aperçus courant sur les routes.
À toute vapeur.
Oui, à toute vapeur. Ils sont sauvages et craintifs. Donc il leur arrive parfois de traverser certaines routes, mais très rapidement. Et ça donne des images assez étonnantes, effectivement.
Ah
ouais. On est aux États-Unis et on voit deux zèbres passer comme ça, rapidement sur la route. On a envie de se frotter les yeux. Alors l'affaire, vous l'aurez compris, tient en haleine les médias locaux et la population. Chacun y vont de leurs commentaires. Des zèbres sauvages du Maryland, magnifiques. Enfin, voilà, on imagine l'émerveillement aussi des enfants ici et là.
Oui, en espérant qu'il n'y ait pas d'accident, qu'ils foncent tout droit sur un humain ou un autre animal.
Oui, parce que il ne faut pas s'en approcher. La population est invitée à ne pas entrer en contact avec eux, parce que on le voit parfois dans les documentaires animaliers, mais un zèbre, ça sait se défendre. Ça peut se défendre contre un lion quand c'est attaqué. Donc, ça peut ruer, mettre des coups de sabot. Donc, il faut laisser faire les autorités.
Alors, on va suivre la course. Continuez. Je pensais que c'était
terminé. Oui, le dernier point de l'article, et ça, j'ai appris quelque chose. Certaines personnes craignent l'arrivée de l'hiver bientôt et le grand froid. Parce que, même si c'est un peu plus au sud, dans le Maryland, il peut faire très froid aussi en hiver. Ça peut descendre sous les 0 degrés, les températures. Point rassurant, c'est un spécialiste qui a été interrogé, Daniel Rubenstein, professeur d'écologie et de biologie à l'Université de Princeton, a expliqué que les zèbres sont capables de vivre, par exemple, sur les pentes glaciales du mont Kenya en Afrique. Et ils sont donc tout à fait capables de survivre au froid. Si jamais, de toute façon, il s'avère trop rigoureux, naturellement, il devrait migrer vers le sud, vers des climats plus chauds. Ce professeur n'est donc pas inquiet de l'hiver qui s'en vient.
Eh bien, cette histoire nous permet aussi d'en apprendre davantage sur les zèbres. Je ne savais pas que ça courait si vite et que c'était fait si fort et que ça avait un instinct très, très... développé. Habituellement, les animaux ont un instinct développé, mais ils sont capables de se défendre. Ils sont fins finaux, un peu comme les renards, finalement.
Exactement.
Et maintenant, un wapiti, qu'on appelle aussi un élan d'Amérique. J'ai regardé là, sur Internet, c'est très impressionnant comme animal.
Oui, c'est un animal énorme. Celui-là, en l'occurrence, pèse à peu près 300 kilos, une belle bête. Un peu comme les zèbres, pendant longtemps, il a été craintif et difficile de l'approcher. Mais finalement, les sauveteurs ont réussi. Ça fait, il a 4 ans et demi, ça fait 2 ans qu'il est suivi pour chasser un peu par les hommes. Alors pour une bonne raison, c'était pour lui faciliter la vie. Parce qu'en effet, ce wapiti avait une particularité. Il vivait avec un pneu autour du cou.
Bien oui.
Et ça donnait des images tout à fait étonnantes de ce bel animal dans un milieu naturel, mais avec vraiment un pneu en guise de collier.
Oui.
On a vu plus élégant. Et puis d'autant que c'est lourd, ça peut vraiment handicaper. Donc voilà, après de nombreuses tentatives, notamment trois cette année, sans succès, eh bien finalement là, il y a quelques jours, ils ont réussi à endormir l'animal pour lui enlever le pneu. Et alors, ça a été quand même un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu croire. Ils ont dû en fait lui couper ses bois, parce que le pneu contenait des tiges en fer, qu'il était très difficile de couper.
Ah, c'est dommage.
Oui, alors rassurez-vous, les bois poussent chaque année, donc il va les retrouver. Ça va peut-être juste un peu l'handicaper pendant la période du rut cette année, mais bon, c'est pour le mieux, pour l'aider à mieux vivre.
Un mal pour un bien.
Oui, et puis ça a été un sacré régime, en fait, parce que entre le pneu, les plus de 4 kilos de débris divers qui s'y étaient accumulés et les bois, il a perdu près de 16 kilos ce jour-là. Donc il gambade probablement plus légèrement
oui.
qu'avant maintenant. Et puis heureusement il n'y avait qu'une petite plaie mais qui n'était pas infectée autour de son cou, c'est même étonnant. Son cou était en bon état, donc l'animal va bien. Et il va maintenant pouvoir, comme ses congénères, pouvoir évoluer sans un collier en goudron autour du cou.
Sans collier et sans bois.
Sans collier et sans bois, voilà. Il est rhabillé pour l'hiver. Mais en tout cas, maintenant, il n'y a plus de crainte pour sa sécurité. Et puis, c'est un rappel à tous ceux qui habitent dans des régions un peu sauvages, de ne pas laisser traîner dans leur jardin des choses comme des filets de volleyball, des pneus, voilà, tout ce dans quoi les animaux pourraient s'empêtrer.
Absolument. Il n'y avait pas besoin de ça là, pour nager, parce que c'est comme une trippe hein, qu'on utilise pour aller au lac.
Oui, non, lui n'a pas besoin de ça, effectivement.
Il est autonome, le wapiti. Il sait nager. Bien, Louis, merci pour toutes ces belles histoires insolites qui ne sont pas dramatiques. Là. Les zèbres, si on veut suivre leur course, on va où? Sur n'importe quel réseau social?
Oh, franchement, en tapant Maryland et zèbres, je crois que c'est les seuls dans l'histoire du Maryland qui se promènent autant, donc on vous trouverez rapidement des vidéos, oui.
On va regarder ça. Vous avez piqué notre curiosité. Bonne semaine et à très bientôt.
Merci à vous aussi.
Je sais, c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais, c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La 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 la. Je sais, c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace, tu te lasses. Mon amour, tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. La, 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 la. Je t'aime, je t'aime, etc. Des beaux jours, mon Dieu, qu'ils passent vite. Et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire? Et qu'un jour, on s'aime, etc. La 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 la. La 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 la
Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas.
Qui nous chantait « Je t'aime », etc.
Julien Clerc et sa voix unique. Merci Jean-Sébastien. Une bonne nouvelle pour les parents d'enfants majeurs lourdement handicapés, et ça me fait plaisir d'en parler avec Martin Houle, porte-parole de Parents pour toujours. Bonjour Martin Houle.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci d'être avec nous. Parlez-nous de Parents pour toujours. Quelle est la mission de cette organisation?
En fait, au départ, Parents pour toujours demandait au gouvernement provincial d'établir une certaine prestation pour les parents qui ont des enfants devenus adultes et qui sont en situation d'handicap, afin de permettre de rester à la maison avec ces enfants-là et puis leur donner les services dont ils ont besoin, plutôt que de les placer là, dans un institut gouvernemental ou encore dans une maison là, où est-ce que les gens s'occupent des personnes handicapées. On était chanceux. M. François Paradis, à l'époque, là, en 2018-19, nous a soutenus au moyen d'une pétition qu'on a déposée à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement, là, justement, de prendre action. Et puis, lorsque la CAQ a commencé son mandat, en fait, lorsqu'ils étaient en promotion.
En campagne électorale.
En campagne électorale, voilà.
Oui.
C'était rendu dans le comté de Mme Marilyn Picard avec Parents pour toujours et des enfants devenus adultes afin d'écouter ce que M. Legault avait à dire. Puis c'est là qu'il s'était engagé devant nous là, à faire quelque chose.
Oui.
Alors, les temps ont passé. M. Legault avait mis en place une table de travail avec Mme Picard et différents ministères. Et puis, avec le temps, on en est venu à obtenir que le chèque emploi-service, qui est déjà un programme connu du gouvernement, puisse s'appliquer aux parents. Alors, à partir de ce moment-là, les enfants devenus adultes qui étaient sévèrement handicapés pouvaient maintenant compter sur le chèque emploi-service afin de donner un salaire pour engager quelqu'un. Et puis, cette personne-là, c'est maintenant le parent qui peut être engagé au lieu d'être une ressource extérieure.
Okay.
Alors, si je me prends un exemple, moi, ma fille qui a 19 ans maintenant, je reçois 20 heures de service pour elle. Alors, à chaque semaine qu'elle est chez moi, une semaine sur deux, puisqu'elle est en garde partagée, elle vient chez moi et j'ai 20 heures de rémunération qui sont exactement là pour donner des services à ma fille.
Elle a quel âge, votre fille?
19 ans.
19 ans, d'accord.
Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça m'évite d'avoir à payer des services de garde, d'être obligé de jouer avec mon horaire de travail, parce que je suis déjà à la maison, puis j'ai un contrat aussi qui me permet de travailler de la maison d'un autre 20 heures là, pour un organisme de personnes handicapées. Alors, en tout, j'arrive quand même à avoir un salaire de 40 heures, mais je suis tout le temps présent pour ma fille.
Ah oui, c'est votre travail à temps plein, finalement, si je peux dire ça ainsi.
Oui, elle a besoin là, de surveillance à temps plein, et puis elle a besoin d'aide dans tout ce qu'elle fait. Là. Elle ne peut être laissée seule. Alors, j'ai besoin d'être présent pour elle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai la chance de l'être.
Et lorsque les enfants handicapés atteignent leur majorité, l'aide financière change complètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces changements-là?
Oui. En fait, ce qui est difficile pour les parents qui ont des enfants lourdement handicapés, c'est qu'on partait d'un programme qui était pour les enfants qu'on appelle le SENS, le surplus pour enfants handicapés ayant des besoins spécifiques. Et puis, lorsqu'on arrivait à l'âge adulte, on n'avait pas le même montant, ça suivait pas, là. Il n'y avait pas un continuum qui se faisait entre l'enfance et l'adulte.
Oui, il y a toujours une coupure dès que l'enfant handicapé devient majeur, là.
Exactement. Puis il faut se préparer d'avance là, pour s'assurer que cette coupure-là n'arrivera pas. Mm. Dans mon cas, j'étais chanceux puisque le gouvernement émet des lettres aux personnes qui sont les plus handicapées. Les lettres vont aux parents et puis avec ça, on peut se présenter à la solidarité sociale et puis éviter d'avoir là un paquet de papiers à remplir là pour faire déclarer notre enfant nouvellement adulte handicapé. Alors avec ça, moi, j'ai eu accès à la solidarité sociale facilement pour ma fille. Et puis, la bonne nouvelle là, qui est annoncée, c'est qu'il y a des augmentations là, qui s'appliquent à partir du mois d'octobre. Et puis, jusqu'en 2023, il va y avoir des augmentations pour un total de 7 100 $ par année. Fait que ça commence à être un peu plus intéressant.
Bien oui.
Cette année, à partir du mois d'octobre, on parle d'une augmentation de 187 $ par mois.
OK.
Pour vous dire concrètement, là, 187 $ par mois, pour moi, ce que ça représente en premier lieu, c'est une nouvelle paire de bottes d'hiver pour ma fille. Parce que, oui, j'ai de l'argent pour rester avec elle à la maison, j'ai des heures qui sont payées, mais c'est un salaire qui est en bas de 20 $ fait que c'est pas avec ça qu'on fait des foleries. Ça me permet d'arriver puis de mettre du manger sur la table. Mais lorsqu'il vient temps d'avoir des achats plus importants, là, c'était difficile. Alors, ce 187 $-là supplémentaire, là, il est vraiment, vraiment intéressant. Ça va nous permettre, là, justement, d'acheter des belles pâtes d'hiver, peut-être un nouveau manteau aussi durant l'année.
Oui.
L'an prochain, il va avoir une autre augmentation de 3 144 $ pour l'année, qui représente là un montant par mois de 1352.
Non, mais ça commence à paraître, là, ça fait en sorte que vous dormez un peu plus sur vos deux oreilles. Parce que jusqu'ici, un enfant, même sévèrement handicapé, recevait pendant les 5 premières années des prestations régulières au lieu de celles pour personnes inaptes à l'emploi.
Oui, pas de place parce que ces personnes-là sont lourdement handicapées depuis leur naissance.
Oui.
Alors, il y avait comme une injustice là, qui était...
flagrante.
Que ces personnes-là faisaient face. Puis aujourd'hui, je pense que le ministre Boulay a fait une très bonne action là, en corrigeant le tir et en permettant justement d'avoir un accès plus rapide au montant maximum. Moi, je l'ai vécu avec ma fille. Là, on avait là, une période de temps. Là, ça fait déjà un an qu'elle reçoit. Et puis, avec les montants qui sont donnés là, ça nous rapproche là, de ce que les gens ont en général sur la solidarité sociale. Alors, je sens que le dossier de ma fille est beaucoup plus considéré de cette façon-là. Et puis, ça va nous permettre justement là, de faire beaucoup de choses aussi dans le futur. Parce que l'angoisse qu'on a aussi comme parent d'un enfant qui est lourdement handicapé, c'est la journée où est-ce qu'on ne sera plus là. C'est très difficile là, pour nous de penser à ces moments-là. Mais il y a des choses qui sont en place qui peuvent nous permettre de faire certaines économies. Entre autres, il y a le crédit d'impôt pour les personnes en situation de handicap. Un REER pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et puis, le gouvernement fédéral, il cotise 5 fois ce que nous, on cotise. Alors, si j'ai juste un 50 $ à mettre par mois, mais le gouvernement, lui, va le multiplier par 5. Fait que dans quelques années, là, il y a un montant maximum là, qu'on ne peut pas dépasser.
Mais c'est bon savoir, ça. Si on veut avoir toutes ces informations-là, parce que vous êtes bien informé, M. Houle, est-ce qu'on peut s'adresser à Parents pour toujours?
Oui, une belle source d'information, là, c'est la page Facebook de Parents pour toujours, parce que à chaque fois qu'on a des informations, on se dépêche à la transférer sur la page, puis on s'assure là, que le message est bien passé, puis on a aussi un groupe de discussion avec les parents. Alors, on s'informe. Même moi, je suis bien informé, puis j'en apprends souvent à travers le groupe de discussion. Alors, j'invite les gens là à venir s'inscrire s'ils sont intéressés en cherchant Parents pour toujours, là, ils vont obtenir beaucoup d'informations.
Et le changement annoncé par le gouvernement vise les enfants handicapés lourdement seulement, c'est-à-dire ceux qui étaient admissibles au SENS, là, qui est le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels?
Oui, et je dirais malheureusement parce que aujourd'hui, ça fonctionne avec des grilles. Et puis, la façon dont les grilles ont été faites, il y a une petite lacune là, qui laisse de côté certains enfants qui ont de très grands besoins, ne serait-ce qu'en surveillance. Il y a certaines personnes là, qui sont pas nécessairement lourdement handicapées, mais qui ne peuvent pas être laissées seules.
Ouais.
Alors, le parent doit faire le choix entre laisser son emploi devant rien ou placer l'enfant. Fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ce programme-là pour qu'il soit plus inclusif, mais c'est vraiment un pas dans la bonne direction que le présent gouvernement a fait parce qu'il n'y avait rien avant. Alors, je pense que tranquillement, pas vite, là, on s'en va dans la bonne direction.
Bon, mais tant mieux. Alors, ça fait partie des batailles qui ne sont pas terminées, là, de parler, de revendiquer que à propos de ce programme-là pour qu'il soit plus inclusif?
Oui. Et puis, quand je dirais une bataille, je dirais plus une collaboration avec le gouvernement.
OK. Oui.
En place, là, on a une très belle ouverture de leur part. Et puis ça, c'est très positif. Je parle entre autres de Marilyn Picard, là, qui est une élue, qui travaille avec le ministère de la Santé.
Qui est mère d'un enfant lourdement handicapé.
Justement, fait qu'elle est très bien positionnée là, pour exprimer ce que les parents pensent, ce que les parents veulent. Puis elle est très à l'écoute là, des parents aussi. Alors, le gouvernement fait une très belle action là, en incluant les personnes en situation de handicap là, au niveau du budget. Au niveau là, des nouvelles idées, même les nouvelles maisons pour aînés et pour les personnes handicapées, de la façon dont elles ont été pensées, il y a une très belle ouverture envers les personnes handicapées dans ces maisons-là. Alors,
mais là, il faut en profiter pour les saluer parce que c'est rare qu'on leur donne une petite tape dans le dos. Là.
On est habitué à combattre avec le gouvernement, mais là, il faut vraiment le dire. Là, je pense que ces temps-ci, on a une belle écoute. Puis, il y a des choses qui sont mises en place. Puis, selon moi, même si ces choses-là ne sont pas à assez grande échelle, au moins, on a quelque chose sur quoi travailler.
Oui.
Il y a un début qui a été fait, au moins. Puis, ça, c'est très intéressant.
Tout à fait. Et donc, c'est depuis le 1er octobre là, que ce programme d'aide directe chèque emploi service permet aux parents d'être engagés pour fournir les soins d'assistance à leurs enfants d'âge majeur lourdement handicapés. Et quelles sont les démarches que les parents doivent faire pour bénéficier de cette mesure, M. Hull?
En fait, si on veut bénéficier de la mesure du chèque emploi service, la plupart du temps, là, les parents ont commencé à en entendre parler. Là, ça fait un an que c'est en place. Là, et puis, il ne faut pas mêler les deux. Là. Il y a la mesure du chèque emploi service, puis il y a l'augmentation de la solidarité sociale. Le chèque emploi service, lui, la nouvelle mesure a commencé le 1er juillet 2020. L'augmentation de la solidarité sociale, c'est en date du 1er octobre 2021.
D'accord, je comprends.
Si les jeunes n'ont pas reçu l'augmentation, ils doivent communiquer avec leur bureau local là, de Service Québec afin de faire rectifier le tir. Et puis, pour le chèque emploi-service, il faut que les gens demandent à leur éducatrice spécialisée ou les travailleurs sociaux qui sont au dossier de l'enfant afin de préparer le terrain. Là. Mais le mot se parle, le mot se transmet de plus en plus. Oui. Et puis, les gens commencent là, à avoir de plus en plus d'informations sur le sujet. Mais le mieux, c'est de vérifier avec la travailleuse sociale qui est au dossier.
Et j'invite aussi les gens à visiter le site parents pour toujours, parents au pluriel pour toujours.com. Martin Hull, vous êtes un excellent porte-parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Bonne journée à vous.
Vous aussi. Nous aurons les par actualités ainsi qu'une rencontre via le téléphone avec Dave Jennis, auteur, metteur en scène, qui va nous parler d'une pièce qui prend l'affiche cette semaine, intitulée « La cendre de ses os ». Alors, restez avec nous.
Au quotidien avec Hélène Denis.
Je t'aime, c'est trop tard. T'es arrivé dans mon salon comme un météore qui a fait un trou dans ma maison. Et a laissé passer la lumière. Avant ça, je voyais pas clair. Mes yeux s'étaient habitués avec mes amis aveugles dans les bars d'aveugles. C'est drôle de te recevoir dans mon salon.
que je m'assois sur mon divan, que je cache la lumière. Ça va bientôt faire un an que je suis là assise dans mon salon, à me demander ce qu'un météore peut bien faire là. Si je leur pitche bien fort, il va peut-être aller chez quelqu'un d'autre ou revenir me voir dans mon salon.
Pièce dans mon salon, c'est interprété par Florence Blaine Mbaye.
Oh, une belle découverte ce matin. Alors, allons-y avec les paractualités. D'abord, en Alberta, après des mois en fauteuil roulant, Angela Oakley, une vétérinaire de Grande Prairie, peut enfin reprendre ses activités physiques grâce à une nouvelle prothèse de genou. Sa mobilité a toutefois coûté cher et elle dénonce la structure de financement albertaine des prothèses qu'elle qualifie de dépassée et d'injuste. Madame Oakley est amputée au-dessus du genou. Sa nouvelle prothèse qu'elle a depuis la semaine dernière coûte environ 57 000 $ et Alberta Aids to Daily Living, le programme provincial qui finance l'équipement médical pour les incapacités à long terme, lui remboursera un maximum de 6 000 $. Mais ce n'est pas tout, les prothèses de genou durent généralement de 6 à 10 ans et elle s'attend à devoir la changer 5 à 8 fois au cours de sa vie. Il existe deux types de prothèses de genoux, mécaniques et à microprocesseurs. Le deuxième modèle, plus sophistiqué, s'avère beaucoup plus coûteux. En raison des lésions nerveuses et du manque de force musculaire dans sa jambe gauche, ce type de prothèse est nécessaire pour qu'Angela Oakley se sente en sécurité. De plus, avec son mode de vie actif, le genou mécanique ne s'avère pas suffisant. Dans un article publié dans un journal canadien spécialisé, Calvin Howard et ses collègues ont examiné la couverture des prothèses dans les 10 provinces. Ils ont découvert que les amputés pouvaient recevoir jusqu'à 15 000 $ pour des genoux à microprocesseur en Saskatchewan et jusqu'à 20 000 $ au Nouveau-Brunswick. La couverture de la Nouvelle-Écosse était similaire à celle de l'Alberta. Aucune province ne les finance entièrement. Calvin Howard, médecin au Manitoba, note que le coût des prothèses a explosé au cours des dernières années, alors que les politiques provinciales de financement n'ont pas suivi. Et il souligne également que bien que les prothèses de pointe soient coûteuses, la recherche a montré qu'elles peuvent, en réduisant les risques de développer des problèmes de santé connexes, permettre à la société de réaliser des économies au fil du temps. Maintenant, nouvelle parue dans le Journal de Montréal le 24 octobre. Un couple chassé d'une boutique à cause de la présence de son chien Mira recevra un dédommagement de 5 200 $ à trancher le tribunal des droits de la personne. Se faire accueillir comme ça. Si notre fils avait été chez nous, ça aurait pu avoir des impacts démesurés sur lui, déplore Suzy Barry. Si notre fils avait été avec nous, ça aurait pu avoir des impacts démesurés sur lui. Donc, déplore Suzy Barry, qui est la mère d'un enfant autiste. Son conjoint, Philippe Jolin, et elle ont adopté Baxa, un chien Mira, notamment pour atténuer l'anxiété de leur garçon, alors âgé de 7 ans. Mira, ça a changé notre vie. Quand notre garçon commence à se désorganiser, on lui dit que son chien ne va pas bien et il s'en occupe. Il la flatte et ça le calme. Il fait beaucoup moins de crises d'anxiété, note la mère de 42 ans. Mais en mai 2016, le couple a eu la mauvaise surprise de se voir refuser l'accès à la boutique Click à Saint-Sauveur. À peine entrée, Mme Barry a constaté que l'endroit était trop petit pour le chien et l'a couché entre ses jambes, à droite de la porte, pour ne pas bloquer la circulation. Or, craignant que le chien ne brise un objet fragile, c'est un magasin d'objets de Noël, les deux propriétaires les ont rapidement sommés de partir en leur criant « après », d'un ton impératif, indique la décision. Le couple a alors tenté de trouver un compromis, mais rien n'y a fait. Si l'altercation n'a duré que quelques minutes, cela a été suffisant pour qu'elle remette en question l'idée d'avoir un chien d'assistance, même si Baxa apporte beaucoup de bien à leur fils. Devant le tribunal, les propriétaires de la boutique, Lisette Barbeau et Pierre Carl, n'ont montré aucun remords, si bien que le juge leur a ordonné de débourser ensemble un montant total de 5 200 $ en dommages moraux et punitifs pour s'assurer qu'un tel comportement ne se reproduise plus. Canton de l'Est maintenant, TDAH Estrie ouvre un nouveau point de service à Magog. Une intervenante sera disponible à 3 endroits. Nous allons aussi offrir un service en anglais, explique la directrice de TDAH Estrie, Céline Landreville. Cet organisme est complémentaire au réseau de la santé et scolaire. Nous ne faisons pas de diagnostic, mais nous donnons des conseils et des stratégies en attente du diagnostic ou une fois que le diagnostic est fait pour atténuer les impacts ou qu'ils disparaissent, explique Céline Landreville. Les enfants, mais aussi les adultes, peuvent être aidés par l'organisme qui célèbre cette année son 25e anniversaire. Notre entente nous permet de développer un service avec des adultes ou le conjoint qui a besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui vit avec un TDAH, mentionne Mme Landreville. Elle estime à 3 000 personnes le nombre de personnes touchées par le TDAH dans la MRC de Memphrey Magog.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Thank you.
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know.
Un petit retour dans le passé avec Cat Stevens et la pièce Father and Son.
Je joins maintenant l'auteur, comédien, metteur en scène, directeur artistique des productions Ondinoc, Dave Jennis, pour parler de la pièce intitulée « La cendre de ses os ». Monsieur Jennis, bonjour.
Oui, oui, Walizabaweo, bon lundi matin à vous.
Oui, est-ce que vous pourriez nous dire le titre de la pièce au grand complet?
Oui, c'est pas toujours facile à prononcer. Alors, Nitax Squadé Wamgol. Donc, Nitax, c'est père, et Squadé, c'est le feu.
Okay.
Et Squadé Wamgol, c'est les cendres. Donc, c'est une traduction un peu libre parce que ça ne se traduit pas les cendres de mon père, la cendre de ses os. Donc, c'est pour ça que la cendre de ses os, c'est la cendre de mon père.
Oui,
voilà.
La cendre des os de votre père.
Oui, voilà.
Et Monsieur Jennis ou Dave, est-ce que je vous appelle Dave ou Monsieur Jennis?
Oh, Dave, hein?
Okay.
Oui, Dave. Pas de vous, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous aviez envie de... Je vais vous appeler Dave, mais je vais vous voyer quand même.
Parfait.
Qu'est-ce que vous aviez envie de partager avec le public à travers votre création?
C'est une création qui ma foi, touche beaucoup l'aspect du pardon, de l'identité. Qui on est comme personne, comme humain, dans une communauté autochtone, quand on est métissé, quand on est parfois repoussé par certaines familles, par certains clans. Cette question-là identitaire m'a toujours interpellé, puis la mort de mon père m'a amené à aussi me poser des questions justement sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi, je crois qu'il y a une vie, qu'il y a autre chose. Mon personnage principal le dit, après la vie, il y a l'animal. Il y a cette réincarnation-là que je crois qui fait partie de la grandeur de cet univers-là. Mais c'est un texte qui aussi nous transporte dans mon bas du fleuve,
oui,
de naissance. Puis... toute la question écologique, environnementale aussi fait partie un petit peu du texte. La réalité des régions, les difficultés de choisir entre les emplois et l'environnement. Donc, il y a un gros contexte. C'est une histoire aussi de reconquête, justement, de sa culture, de sa langue. C'est après 3 années, un des deux frères revient. Puis renoue avec ses anciennes habitudes. Puis à travers ça, on suit l'aventure.
Alors, c'est une histoire très intime, très personnelle, parce que vous abordez le deuil de votre propre père. Est-ce que le travail d'écriture a été long, a été difficile pour vous?
Je ne vous cacherai pas que j'ai pleuré souvent.
Oui. Est-ce que votre père est mort récemment?
Non, quand même. Bon, comme on sait, le deuil, parfois, peut être très long.
Ben c'est le deuil peut être infini aussi, là.
Et voilà, deuil peut être infini. Moi, je pense qu'il est toujours là. C'est juste qu'à un moment donné, on s'habitue à le vivre,
ouais,
et à vivre avec. Mon père est mort en 2008, et en 2017, j'ai commencé à réfléchir à cette histoire-là. Et j'ai écrit pendant un bon 2 ans et demi. Le spectacle devait être joué au printemps l'année passée, en 2020, mais il a été reporté cause de la COVID. Donc, mais ça m'a permis de retourner en écriture. Et ce que j'aime dans mon processus, et ce qui me permet de le faire aussi, c'est d'être à la direction d'Ondinoc. On a une façon de travailler que je pense peut nous amener très, très loin aussi dans le processus.
Oui, il y a beaucoup d'improvisation.
Oui, c'est ça, beaucoup d'improvisation. Puis j'ai amené des acteurs avec moi pendant une semaine dans le bas du fleuve en 2018.
Ils sont chanceux.
Oui, justement pour être ensemble, vivre ça ensemble, puis créer des moments d'improvisation, filmés à partir de base, à partir de d'idées que j'avais.
Vous étiez où dans le bas du fleuve, M. Jenness ou Dave?
Oui, trois pistoles. Okay. Donc, c'est mon lieu de naissance. Ouais. Et j'ai amené les acteurs dans des endroits un peu de mon enfance. Puis c'est là que le texte a commencé à se construire. Et de fil en aiguille, après ça, les acteurs, on s'est rencontrés à Montréal. Disons que je suis un metteur en scène et un auteur qui est assez ouvert, qui donne beaucoup, beaucoup de liberté à ses acteurs. Le texte a énormément changé et a énormément évolué pour le mieux.
Et ça, ça peut plaire à des acteurs, puis ça peut aussi en insécuriser d'autres, mais...
Oui, c'est vrai, c'est très vrai ça.
Comment ça s'est passé avec la distribution? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 comédiens.
Ouais.
Des autochtones et des allochtones.
Oui, il y a des autochtones et des allochtones. Ça s'est très, très bien passé. Tout le monde a été très ouvert, très à l'écoute. On a eu de très belles discussions autour du texte, justement. Puis les acteurs disaient « Ah, ça, peut-être que j'aimerais le dire autrement. Je ne sais pas si à ce moment-là, il dirait ça. » Fait qu'il y a eu beaucoup de coupures, il y a eu des rajouts. Mais j'ai eu des acteurs qui se sont vraiment donnés et abandonnés. Puis j'ai aussi amené une façon de faire ce spectacle-là qui est peut-être différente du théâtre habituel. Donc, on est dans une espèce de zone très, très lente dans la mise en place aussi, dans les déplacements. C'est un spectacle qui calme, je pense, qui va calmer les gens. Oui, il y a beaucoup de ça. J'ai voulu amener ça aussi parce que je trouve que notre vie va vite, le théâtre va vite, et j'avais le goût de respirer, poser.
Mm.
Ça a été un défi. Ça a été le plus gros défi des acteurs, c'est
de ralentir
et de vivre les mots, les faire vivre ces mots-là. Parce que des fois, on dit le texte rapidement, puis on joue rapidement, on se déplace. Mais là, j'avais le goût aussi qu'il fasse voyager les gens, pour que les gens puissent voir ce bord du fleuve-là aussi.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter, en quelques mots, là, les comédiens de votre pièce?
Oui. Alors, il y a Nicolas Gendron qui joue le rôle de Martin Capitaniche. Il y a Charles Bender qui joue le rôle de son frère, François Capitaniche. Il y a Nicolas Desfossés qui joue le rôle de Sébastien Thiénis. Marilyn Provost qui joue le rôle de Sophie Pelletier. Et j'ai Roger Wild qui joue le rôle du père, donc le papa Capitaniche, et qui joue aussi le rôle de l'homme ours, qui est une espèce d'esprit. Ouais, qui est une espèce d'esprit qui guide tous ces gens-là sur le bon chemin dans la pièce. Et j'ai aussi une super musicienne qui est avec nous en direct sur scène. Qui rache en esprit, donc c'est merveilleux. La musique amène les acteurs aussi à vivre beaucoup d'émotions à travers l'histoire.
Et dans quelle langue la pièce est présentée?
La pièce est en français et en langue de Wolastoqui, la langue de ma communauté. Donc c'est aussi une chose importante, une part importante de mon processus d'écriture. J'essaie d'y intégrer la langue aussi, Wolastoqui, parce que c'est important que les gens l'entendent. Puis,
parce que vous êtes d'origine Wolastoqui, mais c'est la même chose si on dit Malécite?
Oui, c'est ça, voilà, oui. Wolastoqui, c'est le vrai mot. Malécite, voilà, c'est le terme que les Français ont donné.
Plus facile à prononcer. Oui. Pour nous, en tout cas.
Mais ouais, le Stogway, c'est ça, c'est la langue, le Stogway. Et on en fait partie de ce texte-là. On l'entend, parfois elle est surtitrée, mais des fois elle ne l'est pas. Donc je donne cette liberté-là au spectateur de se plonger dans la langue, dans cet univers-là, et de justement de s'y imprégner.
Vous dites qu'il y a de la musique pendant votre pièce. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi du chant?
Non, il n'y a pas de chant.
Non.
Il n'y a pas de chant. On a essayé et finalement, je trouvais que ça ne fonctionnait pas dans ce rythme-là, dans la production. Mais on l'a essayé, c'est vrai. Mais on a quand même de la musique chantée. Il y a du chant quand même. C'est pas des chants traditionnels. Mais j'ai travaillé ici avec Caleb Johnson, qui est un Willow Stogway du Nouveau-Brunswick, qui est venu justement enregistrer des chansons parce que on ne pouvait pas l'avoir avec nous sur scène. Donc, il a enregistré des chansons avec Kira. Et les deux ont fait un travail fabuleux. Donc, les chants sont en Willow Stogway, il y a des chants français aussi.
Et ça se passe dans le bas du fleuve. Est-ce qu'on le ressent, le bas du fleuve, sur la petite scène de la licorne à Montréal?
Oui, moi, en tout cas, mes mots font en sorte qu'on le sent.
Oui.
J'ai demandé beaucoup, souvent aux acteurs de s'imaginer le fleuve quand ils jouaient. Et je pense qu'ils l'amènent très, très bien. Il faut dire aussi qu'il y a quelques projections qui nous amènent à voyager dans le bois du fleuve. On est allé dans des projections qui sont quand même pas très... Ils sont quand même très artistiques. On peut difficilement dire où on est situé, mais elles font vivre le texte aussi. Elles font partie de l'histoire.
Est-ce que la mort de votre père a transformé l'artiste que vous êtes devenu?
C'est une bonne question, ça. On m'a jamais posé ça. C'est sûr.
Ouais.
Parce que mon papa, quand il est décédé, je commençais vraiment à vivre mon art. Et mon père a toujours été quelqu'un de très très frileux sur le travail que je faisais.
Ah.
Pour lui, c'était pas
sérieux.
Non, c'est ça. C'était pas ce que je devais faire. Et,
qu'est-ce qu'il espérait pour vous?
Bien, il espérait juste que je puisse vivre décemment. Et je vis décemment depuis longtemps maintenant. Je vis très, très bien de mon art. Je suis un choyé. Je suis sûr qu'il le voit et il le sait maintenant. Mais en 2008, j'ai écrit mon premier texte, Wouboustek, qu'on avait fait au Prospero. Et mon père est venu voir ce spectacle-là. Et il est décédé 2 semaines après.
Ah oui!
Donc,
mais au moins, il a vu
oui. Une